RFI, 6h, ici à Paris, 4h en temps universel. Et un nouveau journal consacré à l'actualité internationale avec vous, Jeanne Bartoli. Bonjour Jeanne.
Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Dans ce journal, un accord au contour encore flou signé entre l'Ukraine et les États-Unis, l'acte de la création d'un fonds d'investissement pour la reconstruction du pays et pour l'accès des États-Unis aux ressources minières ukrainiennes. L'Ukraine précise qu'elle conserve la propriété de ses ressources. Nous sommes à Washington pour les détails dans un instant. À la une également, le Canada qui voit arriver sur son sol des membres de communautés ciblées par Donald Trump et qui ne se sentent plus en sécurité aux États-Unis, vous allez l'entendre. Nous serons au Mali dans ce journal où la dissolution des partis politiques est en marche. Au Royaume-Uni, le 1er mai, fête du travail, rime avec élections locales. L'extrême droite devrait confirmer sa forte poussée. Reportage en Angleterre. L'aide sociale à l'enfance en France. Deux départements accusés de ne pas avoir protégé des mineurs de la prostitution et puis du football. À la fin de ce journal, soirée de gala en demi-finale aller de la Ligue des Champions entre le FC Barcelone et l'Inter Milan. Festival de buts, 3 buts partout. Le projet était au cœur des tensions entre l'administration Trump et l'Ukraine depuis maintenant des semaines. Les États-Unis ont donc annoncé hier soir un accord dit de partenariat économique avec l'Ukraine. Accord qui donne un accès à Washington aux ressources minières ukrainiennes et acte la création d'un fonds d'investissement pour la reconstruction du pays. L'Ukraine qui précise qu'elle conserve l'intégralité, l'entière propriété et le contrôle de ses ressources, y compris le sous-sol. Cet accord semble pour l'instant en tout cas satisfaire tout le monde, Guillaume Nodin.
Cette fois, pas de déraillement de dernière minute comme lors de la réception explosive de Volodymyr Zelensky en février. Les deux pays vont investir à 50% chacun dans ce fonds qui va servir à la reconstruction du pays. Et pour cela, les États-Unis pourront accéder aux ressources minières et énergétiques de l'Ukraine. Le fonds sera basé sur des investissements nouveaux, des concessions d'exploitation nouvelles et non sur de l'existant. Il n'est à aucun moment question de rembourser l'aide fournie depuis 2022 par les États-Unis. Cela n'empêchera pas non plus la candidature ukrainienne à l'entrée dans l'Union européenne. Le fonds créé doit aussi répondre aux meilleurs critères de transparence et de gestion. C'était un point important pour les républicains américains qui ont souvent dénoncé le niveau de corruption dans le pays. Si l'accord n'est pas assorti de garanties de sécurité au sens strict, le département américain du Trésor insiste néanmoins sur le fait que l'administration Trump est attachée à un processus de paix centré sur une Ukraine libre, souveraine et prospère à long terme. Et ce message s'adresse explicitement à la Russie. Ces derniers jours, Donald Trump a fait à plusieurs reprises part de sa frustration alors que les missiles russes continuent à tomber sur les villes ukrainiennes. Guillaume Nodin, Washington. RFI.
Et sur le terrain, justement, en Ukraine, l'armée russe a tiré un drone sur une zone résidentielle à Odessa, dans le sud, tuant 2 personnes, blessant 5 autres. Annonce faite par le gouverneur de la région sur le réseau social Telegram, alors que simultanément, des explosions ont été entendues dans un quartier de la ville de Soumy et des alertes anti-aériennes ont été déclenchées, entre autres, dans plusieurs autres régions du pays. Il est convié dès la semaine prochaine à la Maison-Blanche, peut-être même avant Donald Trump, officiellement. L'invitation faite à Mark Carney, le Premier ministre canadien sorti vainqueur des législatives cette semaine. Les relations entre les deux pays amis se sont notoirement tendues après les propos du président américain sur une possible annexion du Canada. Le Canada qui voit arriver par ailleurs sur son sol ces dernières semaines des membres de certaines communautés ciblées par l'administration Trump, comme les LGBTQIA+, et qui ne se sentent plus aujourd'hui en sécurité aux États-Unis. C'est un reportage à Toronto de Marine de la Moissonnière.
David Leblanc, avocat spécialisé en droit de l'immigration, reçoit à chaque semaine une centaine d'appels d'Américains contre un ou deux avant l'élection de Donald Trump. La moitié provient de personnes de la communauté LGBTQ+, des personnes paniquées.
Il y a 2 jours, j'ai eu une femme au téléphone qui m'a expliqué qu'elle avait préparé un kit d'urgence dedans. Elle a mis des lettres de recommandation de ses employeurs, ses relevés de banque et des albums photos. Il est dans son garage. Le jour où la peur sera trop forte pour elle, elle n'aura plus qu'à le mettre dans sa voiture et à conduire jusqu'ici. Ça m'a surpris. Je n'avais jamais entendu des Américains parler comme ça.
L'autre partie des demandes que reçoit David Leblanc émane d'infirmiers, de médecins ou d'universitaires. Marcy Shore est professeure d'histoire à Yale. À la rentrée prochaine, elle enseignera à la Monk School de Toronto.
Les arrestations d'étudiants, c'est ce qui m'effraie le plus. Ça et les tentatives de censure. Je ne voulais pas que mes enfants assistent à la montée du fascisme aux États-Unis. J'ai peur que tout cela finisse en guerre civile.
Plusieurs universités canadiennes s'efforcent d'attirer les chercheurs américains. Celle de Montréal compte ainsi dépenser 16 millions d'euros pour en recruter. Marine de la Moissonnière, Toronto, RFI.
Le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est entretenu hier avec le Premier ministre pakistanais et le chef de la diplomatie indienne dans deux discussions distinctes, alors que le Pakistan a dit avoir des preuves crédibles que l'Inde prépare une frappe après l'attentat commis au Cachemire sous contrôle indien. Hier, Marco Rubio a encouragé le Pakistan à condamner officiellement cette attaque, alors que le pays a pour l'instant toujours nié toute implication. En Israël, les pompiers en état d'alerte maximale après le départ de plusieurs incendies dévastateurs dans la région de Jérusalem, les plus importants depuis des années. Benjamin Netanyahou avertit que les feux de forêt se propagent rapidement et ils pourraient atteindre la ville de Jérusalem. Des avions en provenance d'Italie et de Croatie doivent arriver en Israël. Emmanuel Macron a lui fait part de la solidarité de la France et a proposé un soutien matériel au pays. Le représentant de la France auprès de la Cour internationale de justice, la CIJ, a estimé hier que le blocage par Israël de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza devait être levé sans délai. C'était à l'occasion d'audiences consacrées aux obligations humanitaires d'Israël envers les Palestiniens. Voilà plus de deux mois qu'Israël bloque le passage de cette aide cruciale dans la bande de Gaza. À l'écoute d'RFI, 6 heures passées de 6 minutes, le Mali s'achemine vers une pérennisation de la période de la transition et un maintien des militaires au pouvoir en l'absence d'élections. Les consultations dites des forces vives du pays, orchestrées par les autorités de transition, se sont achevées mardi. Dans la soirée, les recommandations finales ont été publiées. Dissolution des partis politiques, comme attendu, mais aussi élévation du général Assimi Goïta au rang de président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable. Les précisions de David Baché.
Pas d'élection avant la pacification du pays, parce que l'échéance est floue, pour ne pas dire éloignée, avec un Mali en guerre depuis déjà près de 15 ans contre plusieurs groupes djihadistes et rebelles loin d'être affaiblis, le général Assimi Goïta est durablement installé à la tête de l'État. Il passe de président de la transition à président de la République pour 5 années renouvelables à compter de cette année. Les militaires putschistes avaient pris le pouvoir en 2020. Les organes installés depuis, comme le CNT, dont les membres choisis par les autorités font office de députés, restent également en place. La totalité des partis politiques existants doivent être dissous. Les conditions exigées pour en créer de nouveaux sont drastiques, leurs financements publics sont supprimés, tout comme le statut de chef de file de l'opposition. Les chefs traditionnels ou religieux, ainsi que les membres de la société civile, ont interdiction de se présenter aux élections, lorsque les autorités les jugeront possibles. Toutes ces recommandations doivent encore être officiellement validées par le général Assimi Goïta. Certaines nuances ne sont donc pas à exclure. Le premier ministre de transition, le général Abdoulaye Maïga, estime déjà pour sa part que ces propositions permettent au pays d'avancer.
Et rappelons que depuis plusieurs semaines maintenant, les partis politiques maliens dénonçaient unanimement ces consultations perçues comme une manœuvre pour se maintenir au pouvoir et tourner la page de la démocratie. Dès hier soir, en Conseil des ministres, un projet de loi a été adopté abrogeant la charte des partis politiques en vue donc de la dissolution de ces partis. Cela ne vous aura pas échappé, nous sommes aujourd'hui le 1er mai, journée internationale des travailleurs, et au Royaume-Uni, c'est traditionnellement un jour d'élections locales. Une vingtaine d'autorités locales sont renouvelées à travers l'Angleterre. La plupart sont pour l'instant contrôlées par les conservateurs qui ont subi la pire défaite électorale de leur histoire en juillet dernier. Après 14 ans de pouvoir, ils pourraient perdre leur bastion au profit du parti d'extrême droite anti-immigration Reform qui vient de faire son entrée au Parlement. Emeline Vint s'est rendue dans la ville d'Ashford qui pourrait échapper aux mains des conservateurs.
Les conservateurs tiennent le conseil local d'Ashford, à l'est de Londres depuis 25 ans. Mais cette année, dans l'isoloir, Brian ira voir ailleurs.
J'ai toujours voté conservateur, mais ils n'ont rien fait contre l'immigration. Cette fois, je vais voter Reform, en espérant qu'ils fassent quelque chose. C'est surtout un vote de contestation.
Élu depuis 2017, Paul Bartlett a bien conscience que malgré les enjeux ultra ultra locaux, l'étiquette parti conservateur est difficile à porter depuis la déroute aux dernières législatives.
Cela ne fait aucun doute. Nous devons accepter que nous avons échoué à tenir certaines promesses. Et d'ailleurs, beaucoup de mes anciens collègues conservateurs ont quitté le navire et font aujourd'hui campagne activement pour Reform.
Le parti d'extrême droite, proche de Donald Trump, pourrait gagner plusieurs centaines de sièges locaux en Angleterre. Pour autant, Paul Bartlett n'y voit pas une menace.
Quand les électeurs sont déçus, il arrive souvent que de nouveaux partis politiques émergent. Mais ils disparaissent comme neige au soleil une fois que les deux partis de gouvernement ont fait de l'ordre dans leur rang. Cette élection, c'est une première étape dans cette direction.
Pourtant, pour l'instant, et outre réforme, ce sont bien les petits partis qui devraient tirer profit de ces élections comme les Verts et les Libéraux-Démocrates. Emeline Vran, de retour d'Ashford, RFI.
L'actualité en France et deux départements accusés de ne pas avoir protégé de la prostitution des mineurs confiés à l'aide sociale, service d'État qui relève de la compétence des départements. Deux avocats ont annoncé hier avoir déposé des recours gracieux à leur encontre, mais tous les départements seraient concernés, selon eux. D'après la commission d'enquête parlementaire sur les enfants placés, 15 000 seraient victimes de la prostitution. Amélie Beaucourt.
C'est une procédure juridique inédite qu'entament l'avocat Michel Amas et son confrère Olivier Lemayou. Ils mettent en demeure les départements de l'Essonne en région parisienne et des Bouches-du-Rhône dans le sud-est pour non-protection des enfants placés sous leur responsabilité.
Cette alerte, nous la lançons parce que nous n'avons aucune arme face à ça. Ce sont des milliers d'enfants placés, c'est dans tous les foyers qu'il y a des petites filles qui se prostituent. Elles se prostituent parce qu'il n'y a aucun encadrement. Elles sortent de leur lieu où elles sont placées le soir. Elles ont de l'argent. Elles ont des fringues nouvelles, elles vont au planning familial de manière régulière et jamais les services sociaux ne font remonter l'information de manière à ce qu'on traite au début.
Les deux avocats réclament au président de ces départements des excuses et une transparence sur les moyens déployés pour endiguer cette prostitution. Un phénomène massif qui touche des filles et des garçons dès l'âge de 10 ans. Suite à ce recours gracieux déposé par les avocats, le président du département de l'Essonne a annoncé lancer une enquête administrative et a réaffirmé que la protection des mineurs était une priorité.
Amélie Beaucourt, enfin, il y avait du football hier soir, du grand spectacle même dans la deuxième demi-finale. À l'aller de la Ligue des Champions, l'Inter Milan est parvenu à accrocher le FC Barcelone sur sa pelouse. 3-0, beaucoup de buts, donc Lamine Yamal, notamment dans un numéro en solitaire, ou encore Marcus Thuram avec une talonnade de génie. Écoutez l'attaquant de l'Inter Milan.
On a bien commencé le match, on savait qu'il tenait la ligne haute. Donc on a réussi à trouver Denzel Dumfries sur le côté, lancé, il a centré, je pense que le défenseur il glisse. Et après le seul moyen pour moi de la mettre dans les buts c'est en talonnant et donc ça a marché. On en sort satisfait, on en ressort très fatigué, mais on sait que c'est entre guillemets que la première mi-temps parce qu'on a encore un match la semaine prochaine à la maison devant nos supporters. Et j'espère que ce sera un grand match.
Marcus Thuram au micro de nos confrères de Canal+.
RFI, toute l'actualité,
Jeanne Bartoli.
6h13 à Paris, reportage dans un instant dans la partie de la région de Kherson en Ukraine. Aujourd'hui sous administration installée par la Russie, la politique de russification s'accélère sur place. L'appel correspondant, nous serons au Japon, connu pour ses rythmes de travail inhumains, mais les temps changent, vous allez l'entendre. L'invité culture, la réalisatrice Gaëlle Leroy qui présente son film Afriki à Saint-Louis où se tient jusqu'à samedi la 16e édition du Festival international du film documentaire. Et puis, comme tous les jours, le Conseil Santé. Ce sera avec Caroline Paris. Et direction donc d'abord l'Ukraine, où l'armée russe a revendiqué hier la conquête d'une localité dans le nord de la région orientale de Donetsk, épicentre des combats. En parallèle, Kiev accuse Moscou d'augmenter l'intensité de ses attaques sur le front en dépit des tractations diplomatiques en cours pour trouver une issue au conflit et l'annonce par Vladimir Poutine d'une trêve du 8 au 10 mai prochain. Moscou qui accélère toujours plus sa politique de russification tous azimuts des territoires dont elle s'est emparée par la force des armes, puis qu'elle a annexée en 2022. Exemple, ce matin, dans la partie de la région de Kherson, aujourd'hui sous administration, installée par la Russie. Reportage à Anis Al-Jabri.
20h, 2h avant le couvre-feu, c'est le dernier bulletin d'information du soir de Radio Tavria, mis en service en 2023.
Je vais commencer par les derniers chiffres du ministère russe de la Défense. Au cours de la journée écoulée, les formations armées ukrainiennes ont perdu dans la direction de Kherson plus de 90 militants. Des unités du groupement de troupes Dniepr ont vaincu les effectifs et détruit l'équipement d'une brigade d'assaut, de deux brigades de défense côtière et d'une brigade de défense.
Le contenu n'a rien à envier à ce qu'on peut entendre dans les médias fédéraux légitimistes russes. Radio Tavria est la seule à diffuser officiellement dans cette partie de territoire annexée par la Russie. Et à Genichensk, là où Moscou a installé le siège de son administration, il est quasi impossible d'avoir accès à d'autres sources d'informations. Internet passe très mal, il y a parfois un peu de Wi-Fi, mais il est local. Les VPN ne marchent quasi pas. Aux entrées et sorties de la ville, des barrages militaires. Dans les rues, des patrouilles. Et une population locale qui tient ses conversations dans les magasins à voix basse, presque en murmurant. Pour renforcer encore son emprise, la Russie mise sur l'avenir, intensifie ses efforts financiers et humains en direction de la jeunesse.
Regardez, nous avons même mis des tables de ping-pong ici pour jouer au tennis de table. Nous avons aussi des espaces dédiés à l'entraînement pour l'aviron.
Zoya Anatolievna Yassintseva est la directrice de l'école numéro 3 de la ville qui présente des bâtiments neufs et une classe d'adolescents réunis sous la houlette de membres d'un des nombreux mouvements de jeunesse encouragés par l'administration locale.
Je m'appelle Yakutcheva Yana, je suis la responsable régionale du mouvement public pan-russe des volontaires pour la victoire dans la région de Kherson. J'ai 20 ans. J'ai étudié à la faculté de médecine Genichesk.
L'activité du jour, écrire aux combattants de l'armée russe.
Vous commencez par les mots « bonjour chers soldats » ou « bonjour chers vétérans ». Après cela, vous pouvez écrire des mots de soutien, des mots de gratitude.
Chanson patriotique vantant la Russie martiale sur des images montrant la capitale russe, des défilés militaires. Dans une autre classe, aux enfants de 9-10 ans aussi, une institutrice fait répéter la leçon du Kremlin.
Le premier point aujourd'hui que nous avons est que nous avons foi en la vérité. Seule la vérité est nécessaire et vous devez y croire.
Dans l'entrée de l'école, des affiches invitant à rejoindre les écoles militaires de Russie. L'administration locale revendique de vouloir formater une nouvelle génération loyale au pouvoir russe. Anis El-Jabri, Genichensk, RFI.
Et l'entrée dans ce territoire sous loi martiale pour la presse se fait via une accréditation spéciale. Les interviews dont vous avez entendu des extraits dans ce reportage ont toutes été réalisées en présence d'un membre du service de presse de l'administration installé par la Russie. Place à l'appel correspondant sur RFI en ce 1er mai, journée internationale des travailleurs. On va s'intéresser au modèle japonais. Quand on parle fonctionnement du travail, ce n'est pas forcément le pays qu'on prendrait en exemple. Le Japon est connu pour ses rythmes de travail particulièrement inhumains. Les Japonais ne prennent en moyenne que 10 jours de congé par an, pas plus. Mais voilà, les temps changent. Bonjour Bruno Duval.
Bonjour.
Vous êtes à Tokyo, Bruno. Un nombre grandissant de salariés, des jeunes notamment, en viennent à remettre en cause cette culture d'entreprise qui a toujours sacralisé le travail.
Voilà, près d'un employé sur deux déclare en faire le moins possible au travail. Opter pour le service minimum, en somme. Ces salariés n'ont aucun plan de carrière, ne briguent pas la moindre promotion et ne prennent jamais d'initiative. Ils ne s'intéressent d'ailleurs pas aux tâches qui leur sont assignées. Seuls 6% des salariés se disent passionnés par leur emploi. Aux yeux des autres, faire acte de présence au bureau suffit. La priorité est ailleurs, à la vie de famille, aux loisirs, etc. Ce que comprennent parfaitement ces employés tokyoïtes.
Ne pas sacrifier sa vie pour son boulot, veiller à garder un peu de temps pour soi et ses proches, moi franchement ça ne m'a jamais paru infamant.
Monter en grade, c'est forcément s'exposer, devoir faire des arbitrages et gérer des conflits. Tout cela n'est pas mon fort. Rester à mon petit niveau me convient mieux. Davantage de responsabilités, c'est à la fois moins de temps pour soi et plus de stress. Non merci.
Avec mon salaire de misère, je ne vois vraiment pas pourquoi je m'investirais plus dans mon travail.
Alors ce désintérêt grandissant pour le travail, Bruno, il inquiète le gouvernement car le Japon se distingue déjà par une productivité nettement moins élevée que dans d'autres pays industrialisés. Que font les autorités justement pour tenter d'inverser cette nouvelle tendance ?
D'abord, elles insistent auprès des employeurs pour qu'ils haussent les salaires, qui sont très bas ici, ce qui contribue à la démotivation générale, on l'a entendu. Pour vous donner une idée, le salaire minimum horaire n'est que de 1055 yens, soit 6,50 € contre plus de 10 € en France. Ensuite, le gouvernement tente de rendre la culture d'entreprise plus attrayante en l'humanisant. Par exemple, il compte interdire aux employeurs de faire travailler leur personnel pendant plus de 14 jours consécutifs, alors que depuis des lustres, ils ont le droit de le priver de congé pendant 48 jours d'affilée. Au passage, ça explique pourquoi chaque année, des dizaines de salariés japonais meurent à cause de leur travail. Soit ils sont victimes d'un AVC ou d'un infarctus fatal survenant au bureau tellement ils sont épuisés, soit ils mettent fin à leur jour ne supportant plus d'y être maltraités, victimes de harcèlement professionnel par exemple. D'ailleurs, selon des experts, beaucoup de jeunes font le choix de ne pas s'investir dans leur emploi parce qu'ils ont vu leur père et leur grand-père souffrir au travail. Ils ont la hantise de vivre cela à leur tour, donc font tout pour se protéger.
Merci beaucoup Bruno Duval en ligne de Tokyo pour RFI, c'était l'appel correspondant.
RFI à Saint-Louis, 99.7 FM.
Et l'invité culture qui nous emmène, vous l'entendez aujourd'hui, au Sénégal et plus particulièrement à Saint-Louis, donc où se tient jusqu'à samedi la 16e édition du Festival international du film documentaire. Une cinquantaine de films de nombreux pays du continent sont diffusés gratuitement dans toute la ville. Parmi les films attendus, Afriki de Gaël Leroy, où l'on suit la naissance et le développement du mouvement citoyen Yanamar au Sénégal au début des années 2010. C'est aussi un documentaire qui interroge la façon dont les artistes, les citoyens et les activistes conçoivent leur engagement de Dakar à Kinshasa. Gaël Leroy est au micro de Gwendal Lavina.
Bonjour Gaël Leroy.
Bonjour.
Comment est né ce projet? Que vouliez-vous montrer?
Je voulais montrer comment, à partir d'un petit salon avec 7 personnes réunies autour d'un thé et une coupure d'électricité qui dure plus longtemps que d'habitude, celle-là, elle a duré 20 heures d'affilée. Comment de ce petit salon naît un mouvement qui arrive ensuite à germer à travers tout le territoire. Et puis j'ai été très intéressée tout de suite par la façon dont ils étaient structurés, parce qu'en réalité, il y avait une organisation, une pensée qui était déjà très avancée.
Vous avez commencé à tourner en 2011, au début de Yanamar. Vous avez tout de suite senti qu'il y avait matière, qu'il se passait quelque chose?
Oui, comme j'ai senti que leur projet, il était au-delà. D'une certaine manière, ils ont été rattrapés par l'actualité politique. Ils n'avaient pas vocation au départ à descendre dans la rue et à vouloir renverser ou à participer à renverser ou à arrêter un pouvoir qui devenait autocratique, qui était prêt à modifier la constitution. Eux, ils ont vraiment voulu développer une nouvelle citoyenneté. Donc moi, d'une certaine manière, dès le départ, je me suis dit, bon, il y a cet épisode, on le vit, mais je vais avoir envie de continuer à filmer après. Ce qui va se passer après me semblait plus intéressant.
C'est au moment de la candidature d'Abdoulaye Wade pour un troisième mandat, c'est ça?
Oui, il y a cette candidature où Abdoulaye Wade se présente malgré tout. Donc eux là reprennent leur premier job qui avait été un an avant cette histoire en réalité, de commencer à sensibiliser les jeunes pour qu'ils aillent s'inscrire sur leur liste électorale. Et ils avaient tout de suite conceptualisé ce Das Fanana Al-Fanani Das qui était ma carte, mon arme. Ils avaient écrit des morceaux de rap là-dessus pour inciter les jeunes à dire voilà, votre arme, c'est ça, pour qu'on se préoccupe de notre gouvernance, de comment on est géré. Vous avez le droit de demander des comptes, vous devez en demander, mais pour ça, vous devez aller voter. Donc, ils ont continué ce travail contre Abdoulaye Wade. Et après, ils ont surtout essayé de former à travers tout le territoire sénégalais des jeunes, à savoir ce que c'était que la gouvernance territoriale, le droit foncier, tout un tas de concepts assez abscons au départ, mais ils étaient très forts pour les vulgariser auprès des populations.
C'est pour ça que le tournage s'est étalé sur plus de 10 ans. C'était nécessaire pour capturer les mutations, les évolutions du mouvement et du Sénégal aussi.
Exactement. Et ce mouvement, ensuite, a fait tache d'huile sur le continent. Donc l'aventure, elle a continué. Et il y a eu toute cette dynamique panafricaine, également extrêmement intéressante. Et c'était très équilibré, parce que d'une certaine manière, chacun venait là avec son propre contexte, sa propre situation, mais d'essayer de trouver ensemble comment avancer sur des principes communs, en pensant aussi qu'ensemble, ils étaient plus forts. Et en effet, quand il y a eu des arrestations dans d'autres pays que le Sénégal, il y a eu des coups de projecteur médiatiques très forts, le fait qu'ils soient tous réunis.
Vous parlez du continent. Un élément qui apparaît tout au long du film, que ce soit soit au Sénégal, en RDC, au Burkina Faso, c'est le rapport de ces mouvements citoyens à la politique et aux politiques. Et il est là le vrai sujet du film ou pas ?
Oui, je pense que ça a été une école alternative de sciences politiques qui en a marre. Il y avait ce petit QG aux parcelles assainies d'où tout part. Et tous les mardis, c'était des soirs entières de discussions politiques, de vulgarisation. C'était une, ouais, vraiment une école alternative de sciences politiques. Et ça, c'était assez passionnant aussi.
Merci Gaëlle Leroy.
Merci beaucoup.
Entretien signé Gwendal Lavina à Saint-Louis, que vous retrouvez d'ores et déjà sur RFI.fr.
Le Conseil Santé avec Sunway Assurance.
Et Caroline Paré qui nous parle ce matin des conflits dans le couple et de leurs répercussions sur la vie sexuelle.
Noël Caillercy, bonjour.
Bonjour à Caroline.
Vous êtes sexologue, sage-femme, onco-sexologue. On vous retrouve dans Priorité Santé tout à l'heure pour répondre à toutes les questions des auditrices, des auditeurs. Aujourd'hui, on va parler des répercussions, des conflits sur la vie sexuelle. Noël Caillercy, en fonction des couples, des histoires, ces désaccords peuvent avoir des conséquences très différentes. Par exemple, avoir une influence sur le désir.
Oui, tout à fait. Parce que effectivement, si on est dans un contexte relationnel conflictuel où on ne s'entend pas, on ne peut pas partager des choses, c'est sûr que cela va avoir un impact sur la sexualité.
Est-ce que dans certains cas, même ces disputes peuvent devenir de véritables tue-l'amour ?
Oui, ce sont des tue-l'amour parce que les personnes ne se rencontrent pas et qu'elles restent dans des positions où chacune veut avoir raison, donc elles ne s'entendent pas. Il est important, lorsqu'il y a un conflit, de pouvoir prendre le temps de se poser et ne pas être dans une démarche de règlement de compte ou encore d'être dans le reproche.
Et à l'inverse, certains couples estiment qu'il peut y avoir une sexualité de la réconciliation.
Alors là, c'est quelque chose à éviter, je pense. Tout simplement parce que le problème n'est pas réglé. Donc il est juste mis sous le tapis, comme on dit, et il va ressurgir à différents moments de la relation et ça va se cristalliser avec le temps et le couple en lui-même va s'éloigner de façon très progressive.
Est-ce que vous avez des conseils brièvement ou des mises en garde qu'on va développer tout à l'heure dans l'émission ?
Déjà, le premier conseil, c'est de revenir sur une difficulté au moment où tout va bien. Lorsque la discussion ne peut pas avoir lieu, mieux vaut arrêter course à cette discussion parce qu'on ne s'entend plus. Deuxième chose, il est certain qu'on ne va pas consulter à chaque fois qu'on a une difficulté dans le couple, hein, ça n'a pas trop de sens. Mais pour autant, il faut éviter de faire intervenir un tiers qui va devenir, on va dire, l'arbitre. Nous avons tous des représentations et une relation par rapport au conflit qui est différente, même si c'est une meilleure ou un meilleur ami.
On va revenir sur toutes ces questions en direct tout à l'heure avec vous, Noël Caillercy. On rappelle le numéro WhatsApp de l'émission, 33 7 61 18 46 41. Priorité santé à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Tout à l'heure, c'était Caroline Paré sur RFI. Vous restez avec nous. Le prochain journal, ce sera dans 3 minutes avec Xavier Besson, mais avant un peu de musique et le choix de nos programmateurs sur la radio du monde, le guitariste et bassiste franco-turc Selma Faris, tout de suite on écoute Ispahan. Salman Faris, Ispahan sur RFI. Titre extrait de la playlist des programmateurs d'RFI que vous retrouvez sur le site musique.rfi.fr. Vous restez avec nous, le retour de l'info, c'est dans moins d'une minute.
À l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Des affiches illustrées du 19e siècle au spot télé signé de grands réalisateurs. L'art a envahi la pub. De nombreux artistes ont mis leur talent au service des publicitaires. On en parlera à l'occasion de l'exposition « L'art est dans la rue » au musée d'Orsay.
Sur le Pont des Arts,
avec la compagnie Corsair.
Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.